quand on voit les résultats pratiques du travail, eh bien, c'est les femmes. Et c'est là que j'ai repris espoir, parce que c'est vrai que soit dans la sous-commission femmes, soit dans cette commission femmes, on était un peu parfois aigris, amers, en disant non, mais vraiment, ça avance pas. Tout à coup, on a vu une génération de femmes être là, qui n'était pas venue nécessairement à la commission de femmes, mais qui appuyait un point de vue de femme sur le monde, un point de vue, une manière de faire de la politique. Et entre autres, il y a eu un discours final de Marie Cantor. Marie Cantor, donc, qui était une des organisatrices de cette assemblée.
Marie Cantor, excuse-moi.
Marie Cantor, donc une économiste anglaise qui s'est beaucoup spécialisée sur les problèmes du passage de comment on pourrait transformer les industries d'armement, qu'est-ce que ça coûterait. Marie Cantor, donc, qui a fait ce discours final que nous aimerions vous faire écouter.
After the initial euphoria of the revolutions of 1989, I think many of us have felt rather helpless at the pace of events. We felt as though we are suddenly being swamped by new imposed models of society. Many people that are here from the West, and I also found many from the East, are really concerned about the new ideology.
Beaucoup d'entre nous en Occident et beaucoup de gens de l'Est aussi sont alarmés par l'idéologie du marché libre qui semble balayer l'Est, fortement encouragée par les gouvernements occidentaux. Ne me méprenez pas, je ne suis pas contre les marchés, mais je suis contre l'idéologie du marché. Que le marché soit le principe régulateur dominant de la société, que les profits, les prix et les monnaies convertibles soient plus importants que le chômage, l'éducation, la dégradation de l'environnement et la situation de la femme. Je suis contre la provocation et je suis contre la privatisation de l'individu, la transformation du citoyen en consommateur. Je suis contre la façon dont les vidéos, les ordinateurs domestiques, la TV par câble remplacent la vie sociale et civique. Par ailleurs, encore plus effrayant est la résurgence des nouveaux fondamentalismes qui ont été préparés par 40 ans ou en URSS par 70 ans de totalitarisme. Le nationalisme, non pas celui qui vise à l'autodétermination, mais le nationalisme exclusif, celui dirigé contre les autres. Les fondamentalismes du racisme, de la xénophobie, de l'homophobie, le fondamentalisme religieux. C'est un danger énorme pour l'Europe d'aujourd'hui. L'espace pour des alternatives démocratiques, pour faire des choix qui concernent les sociétés où nous vivons, est limité, d'une part, par la culture consommatrice, consumériste, et d'autre part, par ces fondamentalismes effrayants. Il y a un rapprochement à faire ici avec la guerre froide, car ces deux modèles, la culture consumériste et le fondamentalisme, ne sont pas vraiment en conflit. Ils sont complémentaires. Le modèle du marché libre, du consumérisme, nécessite de plus en plus de ressources. Il se nourrit d'inégalités économiques et produit donc fatalement les exclusions et les injustices qui engendrent le fondamentalisme. Une chose nourrit l'autre. L'Occident semble dire « Rejoignez le marché libre et vous pourrez, vous aussi, devenir des consommateurs. » Mais il est très, très difficile d'entrer dans le petit cercle des pays consuméristes. Et le résultat final pourrait être de plus en plus d'inégalités, d'exploitation des ressources et des menaces sur la démocratie dans les pays de l'Est. Le consumérisme a en plus besoin d'une alternative horrible, d'un faire-valoir pour se présenter comme seule alternative. Maintenant que nous avons perdu le totalitarisme, le fondamentalisme vient à point nommé. Cette idée d'une nouvelle guerre froide entre le consumérisme et le fondamentalisme est parfaitement illustrée par l'affrontement dans le Golfe. Les dictatures que l'Occident a créées pour satisfaire sa soif de pétrole, pour acheter ses armes, sont à présent opposées à l'Occident, comme son adversaire, alors qu'il s'agit de sa création. Nous sommes ici pour élargir l'espace démocratique en Europe, pour assurer que l'Europe unie ne soit ni consumériste ni fondamentaliste. Quel genre d'organisation sommes-nous ? Un lobby pour agir sur le processus d'intégration tel qu'il se met en œuvre depuis en haut ? L'embryon d'un parlement ? Un réseau de citoyens ? Est-ce que nous représentons la société civile ? Nous sommes, je crois, un peu toutes ces choses et aucune. Nous sommes très nettement un réseau de citoyens. Parmi les propositions faites ici, il y a beaucoup de réseaux, de projets réalisés à la base, sans référence à ce que font les gouvernements. Mais nous sommes aussi un lobby. Il y a beaucoup de propositions que nous voulons faire à des gouvernements, et particulièrement dans le cadre de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Mais je ne crois pas que nous sommes un embryon de parlement et je ne crois pas que nous représentons la société civile. Nous en faisons partie, mais nous ne la représentons pas. Nous sommes une assemblée de citoyens et non pas un parlement. Nous sommes préoccupés par la démocratie, mais pas dans le sens de la délégation, de représentants ou de responsabilités. C'est quelque chose qui doit se faire. Il faut des parlements. Mais nous sommes concernés par la question d'une participation réelle dans le développement de la société, par le fait de prendre responsabilité nous-mêmes pour notre société. Si nous représentions la société civile, nous serions un parlement. Les parlements représentent, d'une certaine façon, la société civile, puisqu'ils sont élus par elle. Et puis, il y aurait avec nous beaucoup de gens qui sont absents, tous ceux qui sont engagés dans le consumérisme et le fondamentalisme. Nous représentons les institutions et les mouvements dans lesquels nous sommes engagés, et c'est tout. Notre pouvoir ne dérive pas de ce qu'on représente, mais de ce que nous faisons et de nos idées et projets. Notre pouvoir dérive de notre propre énergie et engagement. C'est à nous de prendre responsabilité pour ce que nous faisons. C'est nous qui déterminerons si la conférence des citoyens d'Helsinki peut vraiment renforcer les forces démocratiques en Europe. C'était Onde Femme 93.8 MHz, premier compte-rendu sur la conférence sur l'Assemblée des citoyens d'Helsinki. Si vous êtes intéressé à ce débat, vous pouvez le suivre dans le journal de Forum Dissidence, qu'on peut se procurer en écrivant à la boîte postale 242 1217 Mérin 7. Si vous êtes intéressé à participer aux travaux de la conférence des citoyens d'Helsinki, vous écrivez à cette même adresse, boîte postale 242 1217 Mérin 7, et on reprendra contact avec vous.
Et nous vous rappelons que la semaine prochaine, nous continuerons notre rapport de notre rang lors de notre assemblée, ou peut-être dans 15 jours, parce qu'on a un travail de traduction gigantesque. Nous devons parler estonien, yougoslave et tutti quanti. Mais nous vous rapporterons les merveilleuses rencontres que nous avons faites lors de cette assemblée. Dans quelques instants, c'est la suite de Remue-Ménage. On tourne la page de notre travail à l'assemblée et nous passons dans un... Comment dire ? En compagnie de Marianne avec une sculptrice. Волны морские люблю, дай парусу полную волю, сама же я сяду к рулю. И правишь в открытое море, где с бурей не справится нам, в такую шальную погоду. Как я доверялась тебе.
нужды все подня тебя провела. Ты чувствуешь гибель презренный, как трус побледнел, задрожал.
Alors Radiozone était représentée en masse à cette conférence des citoyens d'Helsinki et donc vous aurez un autre point de vue, un autre reportage dimanche soir sur 93.8 MHz. À quelle heure ?
À 19h, en compagnie d'Olivier qui était aussi à Prague et avec Jean Musy. Bonjour Marianne, alors je suis toute contente, tu viens nous parler de toute autre chose que ce que nous avons parlé. Toi, tu es allée fouiner dans les galeries genevoises pour rencontrer Birgit Damm, qui est une sculptrice.
Oui, sculptrice plasticienne, elle se définira elle-même. Pourquoi Birgit Damm, qui expose en ce moment chez Andata Ritorno jusqu'au 5 novembre, donc il faudra vous y précipiter, parce que pour nous, c'est vraiment une personne, une artiste qui est vraiment engagée dans son époque, engagée par rapport à son art et tout ce que ça, avec tout ce que ça implique. Et c'est une démarche extrêmement intéressante. Alors là, je crois que nous sommes un peu pressés par le temps. Donc tout de suite, Birgit Damm, je l'avais rencontrée il y a 15 jours dans son atelier à Annemasse. Birgit Damm, vous exposez du 18 octobre au 4 novembre 90 chez Andata Ritorno. Alors nous sommes ici dans votre atelier à Annemasse, près de la gare. Alors il faut tout de suite le dire, si on entend des bruits bizarres dans le micro, ce seront des trains de marchandises qui parlent. Nous sommes donc dans votre atelier pour parler de votre travail. C'est toujours difficile de parler d'un travail visuel à la radio, mais on va s'y employer. Tout d'abord, est-ce que vous êtes... Comment vous définir ? Vous vous définissez comme sculpteur ou comme plasticienne ?
Alors, tout d'abord, je pense qu'actuellement, être sculpteur est difficile, d'une part, parce que le sens du mot sculpteur nous rappelle à l'histoire de l'architecture, du marteau, etc., de toute une série de matériaux que moi, je n'emploie pas et que je n'utilise pas et qui, pour moi, ne font pas rapport à ce que j'appellerais, moi, ma sculpture, si je dois continuer à m'appeler sculpteur. Même si, dans un certain sens, je préférerais dire simplement que je suis artiste, plasticienne, si on veut. Sculpteur, pourquoi pas. Je pense que c'est un peu libre aux personnes de voir ça comme eux, ils le conçoivent.
Vous avez fait les Beaux-Arts à Genève et tout de suite, vous avez entrepris le travail qu'on va pouvoir admirer chez Andata Ritorno.
Oui, ça fait donc déjà pas mal d'années que je travaille dans ce domaine. Et ayant fait l'École des Beaux-Arts à Genève, j'ai ensuite continué à travailler pour moi. Maintenant, je suis ici donc à Annemasse, dans cet atelier ici, qui est très grand et qui me permet de travailler dans des dimensions qui sont assez imposantes. C'est-à-dire une moyenne de 3 mètres sur 5, de 2 mètres sur 4, etc. Ce sont donc des... Si vous voulez que j'essaie de définir un petit peu ce que je fais, je dirais dans un premier temps que je travaille avec des objets que j'achète dans le commerce. C'est-à-dire des objets que la société ou que les industries ou que les entreprises créent et construisent pour moi ou pour le public. Et je participe à cet grand achat de la consommation actuelle. J'achète donc des objets. Dans un deuxième temps, je construis, j'assemble ces objets avec des plaques, des panneaux de bois, d'agglomérés, de différentes qualités, qui sont par exemple de l'aggloméré mélaminé, on dit ça en Genève, je crois, ou bien de l'aggloméré brut, marine ou pas, etc. Différents matériaux comme ça, qui sont de différentes couleurs, qui sont de différentes qualités. Et ces assemblages sont en général faits en plan, c'est-à-dire que les plateaux, les plaques sont en deux dimensions et les objets en trois dimensions. Donc il y a toujours une recherche un peu sur la problématique de la bidimensionnalité et de la tridimensionnalité.
Ces objets précisément, alors quels sont-ils? La joie des baignoires, des piscines?
Oui, alors j'ai choisi ici pour cette prochaine exposition un certain nombre d'objets. Il y a entre autres des bassines de pelouse, qui sont donc des bassines en polyester que l'on enterre normalement dans son jardin pour y faire pousser des plantes aquatiques ou des petits poissons rouges, par exemple. Ou bien je travaille avec des objets plus industrialisés, comme par exemple des baignoires en acier émaillé, standard ou non, de différentes formes, des bacs de douche, des éléments plus proches du quotidien peut-être, qui sont des petits bacs en plastique ou des vases en verre. J'ai aussi travaillé avec d'autres objets, par exemple des bacs en zinc ou encore des plateaux de service, de self-service, je pense que...
Mais justement, ces objets, comment vous les choisissez? Vous dites, je participe à la société de consommation. Est-ce qu'en vous promenant dans un magasin ou encore dans un restaurant, un objet vous frappe? D'où vient cette envie d'acheter cet objet-là, précisément?
Évidemment, c'est une vaste question. C'est une très vaste question, parce qu'il est très difficile de... lorsqu'on procède dans l'art, dans une expérimentation artistique, de définir quelque chose qui très fréquemment participe de toute une série de facteurs psychologiques, inconscients, subconscients, etc. Et je pense que pour beaucoup de personnes, on peut dire, moi j'achète un seau en plastique rouge parce que je préfère qu'il soit rouge ou plutôt orange ou plutôt rose, etc. La mode est maintenant au pink, par exemple, ou au violet. Bon, ce sont des facteurs commerciaux, psychologiques, etc., qui sont assez puissants et en même temps qui sont vagues. Et je pense que c'est difficile d'expliquer simplement j'achète cet objet pour telle ou telle raison. Mais très souvent, je pense que personnellement, je participe à une société de consommation dans un certain sens, et en même temps, avec un certain recul, une certaine ironie par rapport à ce choix lui-même. C'est-à-dire que je me rends compte qu'il y a des objets qui sont à la mode, que je vais traiter et que je vais utiliser, et des objets qui représentent une réalité d'aujourd'hui, et c'est ces objets-là qui vont m'intéresser le plus. Quant à savoir s'il y a un deuxième niveau, c'est-à-dire c'est difficile d'éliminer des objets, alors je pense que je procède peut-être plus par élimination que par choix électif. C'est-à-dire qu'on peut aussi simplement aller dans les magasins et voir ce que les autres achètent et acheter quelque chose. Alors j'achète quelque chose. Et des fois ça tombe sur tel objet, des fois ça tombe sur un autre objet.
Et à partir de là, vous pensez à en faire une installation ?
Oui, c'est-à-dire que les deux choses viennent un petit peu en même temps. C'est-à-dire qu'on a toujours des matériaux qui nous intriguent, des couleurs qui nous interpellent. Et en général, c'est souvent l'objet qui est choisi, et ensuite les plaques. Quel matériau est-ce que je vais associer pour créer soit une rupture ou un choc ou un rehaussement ou un rejet par rapport à l'objet, c'est-à-dire des contrastes ou des choses comme ça.
Si je regarde la pièce qui est en face de moi, trois panneaux, ils font 3 mètres de haut.
Oui, presque 3 mètres de haut sur 1,30 m. Ce sont donc des grands panneaux standards qui sont achetés directement à l'entreprise, qui sont mélaminés, c'est-à-dire recouverts d'une pellicule plastifiée extrêmement connue, que tout le monde connaît, mais qui... Dans cette situation ici, est noir, contrairement à nos habitudes. Nous connaissons ce matériau en général dans des cuisines, c'est-à-dire c'est blanc, lavable, très agréable. C'est du panneau d'aggloméré. Et puis, dedans sont insérés dans chaque panneau, de même taille identique, est inséré un petit bassin en polyester qui normalement s'enterre dans le jardin. Ce sont donc des bassins bleus, légèrement pailletés, extrêmement brillant, extrêmement agréable, en forme d'amibe, comme ça, des formes très moléculaires. Et elles sont disposées d'une manière extrêmement simple, c'est-à-dire à peu près centrées dans un panneau, à peu près toutes à la même hauteur.
Une fois que vous avez eu cette première réflexion, je participe à la société de consommation, je m'en mets en retrait en même temps puisque je choisis certains objets en étant un peu critique ou comme ça. Est-ce que dans vos différentes pièces, ensuite, il y a une intention différente qui s'en dégage ? Comme par exemple, là, j'ai pris celui des piscines.
Oui, c'est-à-dire ce que j'aimerais... disons dans un certain sens soulevé quand même, c'est que bon, quand je dis je participe à la société de consommation, c'est sûr qu'il y a là une forte ironie, une forte volonté de ne pas se soumettre et de se soumettre à la fois, c'est-à-dire de participer à un jeu comme ça. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que quand on crée une pièce, quand on construit une œuvre d'art contemporaine, on a aussi une volonté peut-être simultanément de se placer par rapport à l'histoire de l'art. C'est-à-dire que je ne procède pas uniquement comme consommatrice, mais je travaille aussi dans une direction, enfin dans une recherche par rapport à l'histoire de l'art, par rapport à d'autres artistes, par rapport aux conceptions de l'esthétique contemporaine, des choses comme ça qui m'intéressent évidemment.
Dame, vous avez 27 ans. Alors, à 27 ans, qu'est-ce que c'est qu'être une artiste contemporaine ?
Alors, c'est beaucoup de choses, parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui travaillent dans l'art actuellement et qui sont, se disent artistes contemporains, le son, le vive, etc. C'est difficile de tracer une ligne, mais je peux dire peut-être que pour moi, je pense que l'art contemporain m'intéresse dans la mesure où c'est une interrogation sur le présent, sur la vie d'aujourd'hui, d'une part, et que c'est une interrogation qui se fait à des niveaux différents, c'est-à-dire à la fois comme révolte, à la fois comme révolte par rapport au temps d'aujourd'hui, et en même temps comme créateur d'un temps différent, d'une vision du temps, d'un sentiment du temps qui est différent. Disons, c'est peut-être assez difficile de trouver les bons termes, mais je veux dire que ce qui m'intéresse, c'est la possibilité la plus forte de l'instantanéité et de son expression visuelle, peut-être. Il y a des choses comme ça au niveau du temporel, au niveau des recherches du présent qui m'intéressent.
Par rapport à vos œuvres, pour vous, c'est important que les choses... Finalement, c'est très précis et très rigoureux ce que vous faites.
Oui, c'est-à-dire que je pense que je fais un travail qui, d'une part, est assez... qui est grand, qui s'affirme d'une manière assez volumineuse. Mais c'est vrai que mes références historiques sont beaucoup plus proches, beaucoup plus, disons, amenées ou soutenues par des artistes des années 60, des artistes américains, surtout l'art minimal, évidemment, qui m'a peut-être le plus frappée dans mes approches culturelles. Je pense que c'est évident que je travaille en général toujours avec des sections simples, avec des coupures radicales dans les plaques. Il n'y a jamais de... il n'y a jamais de volonté de présenter l'objet autrement que ce qu'il est. C'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire de travailler à la fois sur la présentation de l'objet sans la dévier et en même temps de travailler sur l'histoire de l'art, sur les références, sur la mécanicité, sur la volonté de répétition, sur la présentation commerciale, sur les rapports de tout ça.
Vous faites référence à l'art minimal, à un choix plutôt pragmatique des objets que vous employez, des assemblages que vous faites. Est-ce que vous avez l'impression d'y mettre quelque chose de vous-même au niveau, si j'ose dire, sentimental ?
Pardon, cela me fait rire. Non, mais c'est-à-dire... oui et non. C'est évident qu'on a tous des sentiments, mais bon, ça c'est une chose. Mais dans un second temps, je pense que mes travaux se réfèrent plus à des œuvres qui travaillent sur les sensations immédiates, sur ce que l'on peut voir maintenant, ici et maintenant. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que l'instant présent nous propose telle couleur, tel objet, telle forme. Et qu'est-ce que pouvons-nous faire avec cela ? C'est un peu ces questions-là qui m'intéressent. Alors, quant à savoir si moi, j'exprime quoi, ça, je pense que c'est très secondaire. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je peux créer et pas ce que je peux ressentir.
C'était Brigitte Dame, interviewée par Marianne. Brigitte Dame, sculptrice. Remue-ménage, c'est terminé pour aujourd'hui. Et comme les informels sont en vacances, eh bien, je vous propose de passer quelques instants en compagnie d'une musique de femme, Tina Turner. C'est Onde Femme, Radio Zone 93.8.